Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine santé pour cette émission de C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. C'est Marianne Paquette qui est là pour les prochaines minutes. Eh bien, si vous attendez un bébé ou encore si le vôtre est bientôt en âge de manger des aliments un petit peu plus solides, donc autour de 6 mois, eh bien, le deuxième sujet du jour devrait vous intéresser parce que les connaissances ou encore les recommandations qui concernent l'alimentation des bébés, ça semble toujours en évolution, en changement également, et ça peut devenir assez vite. On peut se sentir dépassé là, assez vite. Ça tombe bien, il y a une nutritionniste que j'aime beaucoup, Stéphanie Côté, qui vient tout juste de sortir un livre chez Modus, Bébé 21 jours de menu, et elle sera là tout à l'heure pour nous en parler davantage. Et puis d'abord, dans la foulée de COP 21, peut-être un petit nom qui vous dit quelque chose. Hein? Cette conférence sur les changements climatiques, c'était organisée par les Nations unies. Ça avait lieu à Paris un petit peu avant les fêtes. Eh bien, le grand public, parce que ça a été bien sûr très, très médiatisé, le grand public, à l'instar des gouvernements du monde, là, on parle de 195 pays impliqués, a été amené à s'interroger sur l'impact des changements climatiques sur notre environnement, mais aussi au-delà de la compréhension, de la conscientisation, il y a aussi comment on peut agir face à ce constat-là. Donc, comment contrer par des petits, des grands gestes notre empreinte écologique. Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, cette situation, donc les changements climatiques, ça met également et directement en péril la santé des individus. Quels sont ces impacts-là? On en parle à l'instant avec Céline Campagna, elle, chercheure à l'INSPQ dans l'équipe sur l'adaptation au changement climatique. Céline Campagna, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
On vous joint du côté de Québec, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Est-ce qu'il neige là-bas?
Il neige, oui, il neige bien, puis ça va être une belle journée pour faire du ski pour les amateurs de plein air.
Sortir dehors un petit peu, oui, sortir le bout du nez, ça fait toujours du bien. Et bien, c'est dans le thème un petit peu, hein, les changements climatiques, on parle de ça aujourd'hui, Céline Campagna. Je trouve ça quand même assez ironique parce que les changements climatiques sont principalement engendrés par nous, par les humains, hein, par l'activité humaine. Et en même temps, de l'autre côté, on en est aussi les principales victimes.
Absolument, absolument. C'est notre façon de vivre, je dirais depuis l'ère industrielle, qu'on cause une pression sur le climat, sur la Terre. Puis c'est évidemment, on est les principales victimes, mais aussi tout l'environnement autour de nous.
Oui, principales victimes, principaux acteurs également. De quelle façon les changements climatiques, ça peut avoir des conséquences sur notre santé, Céline?
Bien, d'abord, comme on l'a vu avec tous les reportages qui portaient sur les changements climatiques en lien avec la COP21, comme vous l'avez dit, la température de la planète se réchauffe graduellement. Puis au Québec, on voit ça aussi. Évidemment, c'est pas des grandes différences, mais cette augmentation de la température-là amène aussi le fait que les périodes de canicule, les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus longues. Puis lors de vagues de chaleur, il y a des mortalités qui sont évitables, en fait, mais qui arrivent. Juste, par exemple, en 2010, au Québec, on a eu 310 morts qui étaient en lien avec la vague de chaleur de 2010. Et puis, aussi, la pollution atmosphérique, qui est causée aussi par exemple, les transports, notre mode industriel actuel. Et puis, aussi, la pollution atmosphérique cause des problèmes chez les gens, soit des problèmes respiratoires, cardiovasculaires, ça amène aussi des décès additionnels qui devraient être évitables, en fait, s'il n'y avait pas cette pollution-là.
Mm-hmm. Lorsqu'on parle de réchauffement, c'est deux Celsius, hein, c'est ça?
En ce moment, on est à quelques degrés de plus.
Okay.
La cible que se sont donnés les décideurs à la COP 21, c'est la cible de ne pas dépasser, en fait, faire tous les efforts possibles pour ne pas dépasser une augmentation de 2 degrés Celsius.
Voilà.
C'est une moyenne au niveau de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle. On parle de dans les années 1800. Là, déjà, on peut s'enligner. On sait qu'on... Le Canada a fait déjà une pression pour qu'on fasse des efforts supplémentaires pour ne pas dépasser 1,5 degré, mais déjà, on se rapproche actuellement là, du degré.
Oui.
Près de 1 degré, oui.
Céline, j'imagine qu'il y a certaines personnes au sein de la population qui sont peut-être un petit peu plus à risque, soit de vivre les conséquences des canicules ou encore de la pollution atmosphérique.
Absolument. Les personnes les plus vulnérables, là, je dirais, aux impacts des changements climatiques, c'est d'abord les personnes âgées, les malades chroniques, parce que leur situation physique est plus vulnérable. Puis, ils ont moins grande possibilité d'adaptation physique à la chaleur, à la pollution, et ils peuvent moins se déplacer, par exemple, si on parle des personnes âgées. C'est plus difficile de se déplacer, par exemple, lors de canicules, d'aller... le déplacement est plus difficile. Aussi, une autre tranche de la population qui est plus à risque, c'est aussi les individus à faible revenu et ceux qui habitent dans des quartiers socialement défavorisés. On sait que ces quartiers-là, c'est des pressions additionnelles sur tous les impacts des changements climatiques viennent se rajouter à aux multiples variables de pression que ces gens-là vivent dans leur quartier, soit le fait de ne pas pouvoir s'acheter, par exemple, un air climatisé, le fait de vivre sur le bord de boulevards industriels ou de parcs industriels ou d'une autoroute avec la pollution qui est associée à ce site-là. Donc, c'est des pressions qui se superposent au changement climatique.
On en parle... Très rarement, parce que, bon, quand vous me dites personnes âgées, j'aurais même pensé les enfants également.
Oui.
On s'y attend toutefois de penser aux personnes qui vivent dans des milieux plus défavorisés. Ben, c'est pas si évident de cibler ces gens-là, cette tranche de la population.
Absolument. Puis je dirais que nous, en santé publique, c'est notre mission aussi de voir comment mieux les protéger, comment faire en sorte tant de travailler avec les villes, les directions de santé publique régionales pour faire en sorte que ces personnes-là ne sont pas oubliées puis qu'on travaille en priorité pour elles.
Mais une façon de les protéger, Céline, est-ce que c'est d'abord, en premier lieu, de leur fournir de l'information, de les peut-être de leur faire comprendre ces impacts-là, parce que, bon, peut-être que l'accès à l'information, ben, ça se passe pas de la même façon?
Absolument. La communication, c'est déjà une bonne façon de commencer, c'est de qu'ils se rendent compte qu'est-ce qui peut de quelle façon les changements climatiques peuvent les influencer, influencer leur vie. Mais aussi de l'autre façon, je dirais qu'au point de vue organisme, comme nous on est, c'est de faire pression aussi sur les municipalités. Puis de pas oublier de faire des subventions pour ces gens-là, d'aller travailler avec les gens des organismes communautaires pour qu'il y ait puis travailler à ce que ces organismes-là aient les sous pour travailler avec les personnes à faible revenu, parce que c'est leurs organismes communautaires qui sont près de ces personnes-là et qui savent exactement c'est quoi leurs besoins.
Oui.
Puis en sachant comment les aider, ce qui leur manque souvent, c'est seulement l'argent.
Oui. Maintenant, Céline, on n'a pas parlé des catastrophes naturelles. On pourrait penser à des tornades, des ouragans, inondations. Ça touche aussi les populations. On voit beaucoup les États-Unis concernés, aussi d'autres parties du monde. Ça a inévitablement un impact sur la santé des individus.
Absolument, oui. Les événements extrêmes qu'on appelle, c'est aussi un autre grand secteur, là, je dirais, où il va falloir s'adapter au changement climatique parce que ça a un impact quand même majeur. Les inondations, entre autres, mais aussi les feux de forêt, ça affecte évidemment la qualité de l'air, mais aussi la sécurité des logements.
Ouais.
Les froids extrêmes, peut-être les épisodes de verglas qui, on le sait, les hivers deviennent de plus en plus tempérés. Ça fait notre affaire d'un côté, mais ça peut apporter aussi d'autres problématiques comme le verglas. Là. Puis, c'est ça, les ouragans. Or, ça, c'est les gens, oui, ils doivent se préparer, avoir quand même un plan d'évacuation de leur loyer au cas où, puis de savoir aussi, est-ce que je suis dans une zone inondable ou pas?
Oui.
Déjà, juste s'informer, c'est c'est déjà un premier pas.
Mais j'imagine que de s'informer est une façon de se protéger. En même temps, j'ai l'impression que parfois, on a envie de jouer un petit peu à l'autruche avec ce genre de situation-là. On se dit, bah, ça n'arrivera pas chez moi, je suis protégée. Comment on peut arriver à aller au-delà de cette idée préconçue, là, Céline?
Mais je pense que c'est par continuer à, justement, en parler, aller faire... nous, on essaie d'aller dans les conférences grand public, de parler de ces problématiques-là aussi. Puis on travaille aussi sur un autre volet où, avec les directions de santé publique et les municipalités, on travaille sur des cartes de risque pour sensibiliser aussi les municipalités à quels sont les risques pour qu'eux informent leurs citoyens, puis leur, la façon de bien gérer ce risque-là.
Oui. Est-ce que les changements climatiques pourraient affecter la qualité de notre eau?
Oui, bien sûr, parce que l'eau au Québec, on sait, elle est toujours fraîche. Oui. Oui, puis on contrôle très bien notre eau potable, je dirais, là, surtout au niveau des municipalités. Au niveau des puits privés, bien, c'est au propriétaire de s'occuper de la qualité de son eau potable. Or, avec le réchauffement des températures, ça se peut qu'il y ait des organismes qu'on n'était pas habitué de retrouver ou qui ne survivaient pas dans l'eau parce qu'elle était trop fraîche. Mm-hmm. L'eau venant éventuellement se réchauffera, puis là, les municipalités et les gens, les propriétaires de puits privés devront garder en tête qu'il peut y avoir des parasites qui ne survivaient pas, qui peuvent aussi... se passer par l'eau potable là, dans le futur.
Là. Ah oui, ah, je n'avais pas pensé à ça, Céline. Donc, encore là, ça demeure un travail d'information auprès des municipalités. C'est les gens qui s'occupent de la vérification du contrôle de l'eau potable doivent être mis au courant de ces modifications-là.
Absolument. Puis je pense que là-dessus, le ministère de l'Environnement, le MDDELCC, là, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, du développement durable, est conscient de ces impacts-là, puis eux, c'est leur mandat de garder à jour les municipalités puis les exploitants d'usines d'eau potable pour qu'ils soient bien informés des risques et aussi qu'ils prennent les mesures là, dans le cas échéant.
Oui. On voit aussi depuis quelques années cette transmission de maladies de l'animal à l'humain. Je pense bien sûr à la maladie de Lyme. Il y a la rage également. Est-ce une conséquence des changements climatiques?
Absolument, absolument. Surtout à ce qui a trait... la maladie de Lyme, c'est clairement dû au fait que l'écologie de son habitat, c'est la tique, une tique qui est en provenance des États-Unis, qui migre vers le nord, puisque qui suit de près là, une souris aussi à pattes blanches, qui, elle, migre vers le nord vu le climat plus favorable à son écologie. Donc, en montant comme ça, elle amène la tique qui suit la souris, en fait, qui provient des États-Unis. Cette tique-là, elle peut être infectée par une bactérie qui transmet la maladie de Lyme. Puis on voit de plus en plus en Montérégie, le nombre de cas par année augmente là, depuis 5 ans, là, et ça va continuer à grimper. Déjà, la maladie se diffuse vers l'Estrie et la région de Montréal.
Oui. Donc, à nous d'être vigilants. Donc, on les voit depuis le début de notre conversation, tous ces impacts, Céline Campagna, des changements climatiques sur la santé de l'humain. Est-ce que ces changements pourraient expliquer aussi la forte présence de certaines maladies? Je pense à des allergies, peut-être une maladie plus... qui peut être clairement très, très dérangeante, mais aussi des cancers. Est-ce qu'on peut attribuer la pollution ou encore la qualité de l'air à ces maladies-là?
Oui, absolument. Bien, vous parliez des allergies. Les allergies, ça, c'est clair que pour plusieurs types d'allergies, surtout l'allergie au pollen, c'est en lien avec, justement, le climat. Puis, les changements climatiques viennent faire une pression additionnelle sur ces allergies-là, ces conditions-là des gens. Pour vous faire ça simple, en fait, c'est, par exemple, si on prend l'exemple de l'herbe à poux. L'herbe à poux, on sait que ça c'est vers le mois de septembre, fin août, début septembre, là, où c'est vraiment la pire saison pour ceux qui sont allergiques à l'herbe à poux. Donc, la plante responsable, l'ambrosia, elle, avec un réchauffement de la température, puis on l'a vu cette année encore, l'été s'est rallongé. Donc, sa période de croissance, puis de où elle peut diffuser son pollen, est beaucoup plus longue. Donc, ceux qui sont affectés sont affectés plus longtemps. Puis si on met la pression de la chaleur par-dessus ça, donc plus il fait chaud, plus elle produit de pollen.
Mm-hmm.
Puis en plus, comme si ce n'était pas assez, en période de pollution atmosphérique, plus il y a pression au niveau de la pollution, plus elle produit, elle réagit fortement à la pollution, puis elle produit encore plus de pollen. Donc, tout ça, ça vient s'additionner sur les effets que les gens ressentent, puis on pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens aussi allergiques, là.
Mm-hmm.
Parce que la réaction allergique au point de vue humain, là, chez l'humain, ben avec la pollution, on devient plus sensible si on a déjà une prédisposition à ces allergies-là.
Donc, allergies, mais aussi d'autres maladies? Céline Campagnan, vous êtes toujours là?
Oui, je suis encore là. Oui, d'autres maladies dans le sens de... J'ai perdu votre propos.
Oui, on a parlé des allergies, mais est-ce que ça pourrait aussi... Les changements climatiques pourraient être aussi déclencheurs de d'autres maladies?
Absolument, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires causées effectivement par la pollution de l'air en plus de la chaleur, effectivement. Les cancers de peau...
Ben oui, c'est vrai.
Ça peut avec... avec les si on a toujours un couvert nuageux comme on a, on peut quand même penser qu'on se protège un peu des rayons ultraviolets, mais c'est clair que plus il fait chaud, plus les gens vont dehors, puis plus on est dehors, plus on s'expose aux rayons ultraviolets, puis le risque de cancer de la peau peut continuer à augmenter là, au Québec.
Oui. Bon, maintenant, il reste peu de temps. On a fait ce constat-là et c'est assez précieux parce que vous nous avez ouvert les lumières là un petit peu. Mais maintenant, on fait quoi? On ne peut pas s'empêcher de vaquer à nos occupations, d'aller au boulot, il y a du smog, on sort quand même. Comment on peut articuler notre quotidien avec toutes ces préoccupations-là?
C'est sûr que ce n'est pas facile parce qu'on est, on est déjà dans des habitudes de vie. Donc, d'un côté, pour se protéger, il y a le côté adaptation, se protéger, puis l'autre côté, pour aider à favoriser, je dirais, la lutte au changement climatique. Il y a comme deux côtés. Alors, le côté lutte, bien, on le sait, on entend parler, c'est de favoriser les transports actifs, là, la bicyclette, la marche. Ça, dans ce temps-là, on ne pollue pas du tout. Sinon, on peut aller vers les transports en commun. Ça, c'est déjà... Et planter des arbres, surtout, et ne pas couper les arbres qu'on a autour. Parce que les arbres, c'est vraiment magique. Ça règle une partie du problème de la chaleur, parce que l'arbre, par l'évapotranspiration, lui, vient diminuer la chaleur, la température de l'air. Il vient dépolluer aussi. L'arbre, c'est un gros poumon, un gros filtre. Il absorbe beaucoup de polluants qui fait, après ça, quand il pleut, ça s'en va dans le sol. Donc, il absorbe la pollution atmosphérique. Puis, en plus, il permet d'avoir de l'ombre quand il fait chaud. Donc, c'est très précieux, les arbres. Ça, c'était comme une façon de au quotidien. Hein?
Oui.
Souvent, les gens, ils sont tannés des feuilles qui tombent tout ça à l'automne d'avoir à les ramasser, mais l'arbre, vraiment, c'est précieux. De l'autre côté, pour se protéger de la chaleur, évidemment, quand il fait très chaud, bien, c'est d'ouvrir nos fenêtres la nuit parce que la température, la nuit, diminue.
Oui.
Donc, aérer l'appartement la nuit, essayer de garder les fenêtres ouvertes lorsque c'est possible. Si on a un climatiseur, de l'utiliser, même si de l'autre côté, il vient favoriser, je dirais, la température extérieure, là, parce que le climatiseur, ça nuit un peu au changement climatique aussi.
Mm-hmm.
Mais pour les personnes qui sont malades chroniques, qui ont des problèmes cardiovasculaires, les personnes âgées devraient idéalement aller chercher des endroits frais, soit chez eux, s'ils ont un climatiseur, soit chez une personne qu'ils connaissent ou dans un centre communautaire, par exemple.
Et on peut choisir aussi notre propre cheval de bataille. Tout à l'heure, sur mon fil Facebook, une amie qui disait « Ah, j'ai trouvé ma résolution 2016, ne plus gaspiller, que ce soit de la nourriture, moins utiliser de contenants jetables. » Donc, elle a trouvé de cette façon sa voie à elle. Et je pense qu'on peut tous trouver un geste pour nous, pour notre famille, très significatif pour aider un petit peu au changement climatique.
Absolument.
Et c'est ce que l'on se souhaite pour 2016. Céline Campagnan, je le rappelle, vous êtes chercheure à l'INSPQ dans l'équipe sur l'adaptation au changement climatique. On laisse le site monclimatmasanté.qc.ca. Moi, j'y ai trouvé vraiment une foule de renseignements, tout ça très intéressant, bien expliqué, bien vulgarisé. Merci, Céline, pour le travail.
Merci à vous. Bonne fin de journée, Mme Paquet.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Stéphanie Côté, bonjour.
Bonjour.
Bonne année, Stéphanie.
Pareillement.
Vous commencez en grand 2016, oh, avec la sortie d'un nouveau livre.
Ah oui, on y est avec ça. On lance un livre tout de suite en début d'année.
Donc, bébé, 21 jours de menu chez Groupe Modus. Stéphanie, je commence à vous connaître et je pense que ce qui vous distingue, ou en tout cas, c'est assez présent dans toutes les publications, dans toutes vos communications, c'est, oui, bien manger, mais le plaisir de manger. Et ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est que ça commence dès les premiers mois de vie, ça.
Oh oui, absolument. Quand on inculque des habitudes alimentaires à notre enfant dès son plus jeune âge, c'est souvent les habitudes qu'il va garder tout au long de sa vie. Donc, aussi bien de partir du bon pied. Et ça, bien, comme vous l'avez dit, ça inclut le plaisir de manger. Si, dès l'introduction des premiers aliments, on montre à l'enfant que c'est bon manger, que c'est plein de couleurs, que c'est plein de textures, que c'est plein de saveurs, que nous-mêmes, on prend plaisir à manger aussi, mais l'enfant grandit en ayant cet aspect-là de l'alimentation en tête et souvent, mais ça en fait un bon mangeur.
Oui, et j'ai été pas tant surprise, mais j'ai aimé me faire rappeler que l'introduction aux aliments complémentaires, c'est aussi une façon d'apprendre full de choses dans le sens, ben, les petits pois, c'est une façon de développer une motricité fine, d'aller les attraper ou encore de jouer avec les aliments, ça nous apprend plein de choses sur la vie. C'est bon de rappeler ça, Stéphanie.
Oui, parce que manger, c'est pas juste se nourrir, c'est pas juste nourrir notre enfant puis donner à son corps tout ce dont il a besoin pour grandir en santé. Ça va au-delà de ça parce que manger, c'est se rassembler pour partager un repas aussi. C'est prendre le temps de jaser, de jouer, d'échanger avec l'enfant au repas. Puis comme vous l'avez dit, ben, il y a aussi une foule d'aspects quant à la motricité fine ou plus globale qui rentre en ligne de compte au moment du repas. Puis ça, ben, il faut y accorder quand même un petit peu d'importance.
Oui. Les besoins nutritionnels du petit bébé ne sont pas les mêmes que les nôtres. Entre autres, ils ont besoin plus de gras. Pourquoi ça?
Parce que la grande différence entre les bébés et les adultes, c'est qu'ils sont en pleine croissance. Ça, évidemment, on le sait. Et la croissance, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Le bébé, évidemment, il y a un petit corps, il y a un petit estomac aussi. Oui. Donc, les aliments qu'on lui fournit doivent être concentrés. Concentrés en énergie, concentrés en calories. Et ce qui contient le plus de calories dans les aliments, bien, c'est les gras. Donc, il ne faut pas négliger ça. Quand les bébés naissent, ils ont besoin d'à peu près 50% de leurs calories qui viennent des gras. Et sans comparaison aux adultes, nous, c'est à peu près 30%. Donc, c'est vraiment des besoins très concentrés qu'ils ont. Et pour ça, bien, il faut leur fournir des aliments qui fournissent des gras, mais pas juste des gras, n'importe quel gras. Il faut que ce soit des aliments nourrissants, évidemment.
Donc, on évite fromage, yogourt allégé, c'est pas pour eux.
Les aliments allégés ne sont jamais pour les bébés. C'est vivement les versions régulières pour eux.
Oui. Aussi, j'entends souvent des parents se poser la question, c'est quoi la quantité que je dois donner à mon enfant? Parfois, l'assiette est trop grosse, donc on se bat avec lui pour qu'il finisse l'assiette. Parfois, notre enfant a faim après le repas. Comment on peut évaluer ça?
La faim, en fait, la quantité que le bébé ou que l'enfant va manger, c'est lui qui le décide. Ça, c'est vraiment la règle de base. Comme parent, ce qu'on peut faire avec l'enfant, c'est commencer par y mettre des petites quantités dans son assiette, en ajouter au besoin si on voit qu'il a encore faim, jamais, au grand jamais, le forcer à manger parce que c'est lui qui est en contact avec son estomac, avec son ventre, c'est lui qui sait s'il y a encore de la place. Et les bébés naissent avec la faculté vraiment innée à gérer la quantité d'aliments qu'ils mangent. Un bébé qui est allaité, on le force pas à boire non. plus, on le restreint pas non plus. Et cette aptitude-là, vraiment à réguler les apports alimentaires en fonction de ses besoins, les bébés, les enfants les gardent au cours de la petite enfance et même plus tard, si on fait pas d'interférence, si on les force pas à manger, les bébés continuent à savoir s'écouter. Donc, c'est vraiment un comportement, ça, à appliquer dans notre vie de tous les jours avec notre enfant.
Mmh. Stéphanie, il y a quelques années, on entendait dire, bon, il faut commencer par tel aliment pour après introduire l'autre. Là, ça ne marche plus, ces calendriers ou ces façons de faire, là, je pense.
Le calendrier qui était plus strict il y a quelques années, effectivement, il est mis de côté. Cela dit, il y a quand même quelques grandes recommandations qui restent. Les premiers aliments à introduire, ce sont des aliments qui sont riches en fer, parce qu'on sait maintenant que vers 6 mois, le bébé a des réserves pas mal affaiblies en fer, donc les aliments qui en contiennent s'appressent. Les aliments, donc je pense entre autres aux céréales enrichies pour bébés, mais aussi le groupe des viandes, poulet, poisson, tofu, légumineuses, œufs, qui contiennent aussi du fer et donc qu'il faut introduire dès les premiers jours, les premières semaines de l'alimentation solide. Puis ensuite de ça, c'est là où il y a un petit peu plus de flexibilité dans le calendrier. Si on veut offrir un légume, 2 jours plus tard un fruit, 2 jours plus tard des œufs ou 2 jours plus tard du poulet, là, à ce moment-là, c'est vraiment, on a plus de latitude qu'on en avait parce qu'on sait que à partir de l'âge de 6 mois, le bébé peut digérer à peu près n'importe quel aliment. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quand on cuisine un repas pour nous, pour les parents, ben on peut soutirer de ça un aliment qu'on va réduire en purée ou même en petits morceaux mous qu'on va offrir au bébé, puis ça va faire son repas à lui aussi.
Oui, ça, vous le dites, c'est important de varier les textures, parfois de laisser peut-être un petit peu plus des morceaux un petit peu plus gros, parfois un petit peu plus fins, puis de jouer avec ça, ça développe aussi le goût de notre enfant.
Oui, parce qu'il faut pas rester au même stade de texture trop longtemps parce que l'enfant va stagner si on fait ça. Si on offre des purées lisses, des semaines et des semaines, l'enfant va devenir un peu paresseux. Là, on se le cachera pas avec les textures. Si c'est juste des purées lisses à 6 mois, 7 mois, 8 mois, lui, il va être confortable avec ça. Donc, il faut un petit peu le mettre au défi. Peut-être pas le mettre au défi, mais vraiment favoriser son développement, lui offrant, en variant les textures, en mettant un petit peu plus de mottons dans certaines purées quand il commence à vieillir, lui offrir des petits morceaux pour lui permettre d'évoluer et devenir un mangeur normal.
Un mangeur qui s'amuse, je dirais. Voilà. Stéphanie Côté, ça a été beaucoup trop vite. Bébé 21 jours de menu, ça se trouve un peu partout maintenant, publié chez Groupe Modus. Merci. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci, Marianne. Plaisir partagé.
Bye bye.
Bye bye.
Merci, Jean-Sébastien. Marianne, au micro. On se retrouve demain, 14h. Portez-vous bien. Bye bye.